de soleil pour cet après-midi, mais pas plus de 10 degrés. Dès demain, un anticyclone s'installera sur nos régions pour plusieurs jours. Le week-end sera bien ensoleillé. Sébastien Dupéret et ses prévisions dans 30 minutes. Les choses s'accélèrent donc sur le front des inondations en Thaïlande. La chef du gouvernement thaïlandais a ordonné aujourd'hui aux autorités de Bangkok d'ouvrir toutes les écluses qui régulent les cours d'eau et les canaux de la capitale. En Thaïlande, on vous retrouve en direct, Niki Nadas.
Oui, l'heure de vérité a sonné pour Bangkok. Les innombrables digues et barrages qui entourent la capitale et sont censés la protéger des inondations ont pour l'heure tenu le coup, mais on ne pouvait pas continuer éternellement ainsi. Les efforts pour renforcer en catastrophe, hein, un coup de dizaines de milliers de sacs de sable empilés, la digue retenant les eaux au nord de Bangkok, ont démontré, si besoin était, la fragilité du système soumis à une telle pression. Alors, on a décidé d'ouvrir les vannes, car après tout, il faut bien, d'une manière ou d'une autre, évacuer ces milliards de mètres cubes d'eau vers la mer. Mais le résultat immédiat, c'est que les régions bordant la mégapole seront encore plus inondées qu'avant, une décision qui, on l'imagine, fait grincer quelques dents. Mais c'est le prix à payer pour sauver le centre, le quartier général et poumon économique du pays. Mais même ainsi, ce ne sera pas avant cette nuit ou demain ou plus tard qu'on saura si Bangkok a pu ou non échapper au pire.
Niki Nadas en direct de Bangkok. Les forces du gouvernement libyen de transition ont annoncé il y a quelques minutes avoir pris les dernières positions tenues par les partisans de Muammar Kadhafi dans la ville de Sirte. Sirte serait donc désormais libérée. La prise de Sirte a aussi été confirmée par un autre commandant. Le tir de la fusée russe Soyouz a été reporté. Il était initialement prévu ce matin, mais une anomalie technique a été observée pendant les préparatifs du lancement. Une nouvelle date sera annoncée dans la journée. La fusée devait placer sur une orbite les deux premiers satellites de la constellation Galiléo, projet européen concurrent du GPS américain. Aucun administrateur de Neuchâtel-Xamax ne s'est donc présenté ce matin devant le tribunal civil de Neuchâtel. Le club devait pourtant répondre à une triple convocation de la justice neuchâteloise. Les entraîneurs juniors, le staff technique et l'ancien entraîneur, tous licenciés après la reprise du club par Boulat Chagaïev, s'estiment victimes de licenciements abusifs. Ils demandent donc des comptes à Neuchâtel-Xamax. Pour Alexandre Zenrufinen, avocat des anciens cadres du club, le comportement des actuels dirigeants est déplorable. Écoutez.
On atteint probablement le comble de l'irrespect. Il y a dans notre matière, sans aucune explication, quand certains employés demandent comment on peut balayer comme ça pratiquement plus de 28 ans de service, on ne répond même pas. Donc effectivement, le comble de l'irrespect a été atteint. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça encore. Aucun administrateur du club n'est présent, personne pour fournir les réponses. Voilà le traitement qui est réservé à des gens qui ont consacré quelques années de leur vie à ce club.
On a senti vos clients très affectés, notamment Philippe Salvi. Ils sont très affectés.
Quand vous avez sacrifié tout ce qu'il a sacrifié pour un club et qu'on vous traite comme on le traite actuellement, c'est quelque chose d'absolument déplorable. C'est un club qui est en pleine bérésina. Et puis ça se voit aussi dans ces procédures.
Vu la procédure en cours, ça peut durer très longtemps. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Vos clients sont prêts à aller jusqu'au bout?
Bien entendu, ils vont pas lâcher. Au contraire, je pense que le comportement de Neuchâtel-Xamax va plutôt renforcer leur détermination à aller jusqu'au bout. Donc pour l'instant, on continue comme si de rien n'était.
Des propos recueillis par Jérôme Galichet. Cette fois, c'est parti. Le coup d'envoi du CEVA, le chantier de la liaison ferroviaire franco-genevoise, sera donné le 15 novembre prochain. Chantier longtemps retardé par des recours. Cette date a été communiquée ce matin lors du point de presse du Conseil d'État genevois. Même si le tribunal fédéral doit encore se prononcer sur l'ultime poignée de recours, il s'agit bel et bien cette fois du début des travaux, comme l'explique le président du gouvernement, Marc Muller.
On est vraiment maintenant au vrai début du chantier. Je pense qu'on peut parler de chantier du siècle. Non seulement parce que ça fait environ 100 ans qu'on discute du CEVA depuis la première convention de 1912, mais aussi parce que c'est le grand chantier de notre époque, dans notre région, qui relie Genève à la France. Maintenant, c'est véritablement parti. Le 15 novembre, nous allons donner ce premier coup de pioche en grande pompe.
Est-ce qu'il n'est pas risqué d'ouvrir le chantier alors que finalement, il y a encore des recours pendant OTF?
Oui, il y a un petit risque, c'est vrai. Mais nous avons considéré que dès le moment où l'autorisation de construire a été délivrée par l'administration fédérale, après un examen scrupuleux du respect de la loi, après que le tribunal administratif fédéral ait confirmé cette autorisation, nous avons estimé que le risque n'était pas nul, d'être débouté par le tribunal fédéral, mais qu'il était véritablement infime et que nous devions maintenant aller de l'avant et ouvrir ce chantier.
Des propos recueillis par Mathieu Cuplin, et selon le calendrier prévu, les travaux du CEVA devraient prendre fin en 2017. Nestlé a enregistré une croissance organique de 7,3% sur 9 mois avec des ventes qui dépassent les 60 milliards de francs. Le développement a été particulièrement marqué en Asie, en Océanie et en Afrique, a annoncé le groupe Veuvaison ce matin. Le Conseil fédéral doit déterminer d'ici à la fin de l'année quel sera le nouvel avion de combat de l'armée suisse. Il a chargé hier le ministre de la Défense, Uli Maurer, de faire une proposition. Trois modèles sont sur les rangs. Le Gripen du constructeur suédois Saab, l'Eurofighter de ADS et le Rafale du français Dassault. Un choix qui va être entériné alors même que le plan de financement de ces avions est loin d'être sous toit, Christian Fabre.
Oui, c'est une situation un peu ubuesque. D'un côté, le Conseil fédéral veut se déterminer sur le type d'avion dont la Suisse a besoin. Alors que de l'autre, comme il l'a annoncé hier, il réfléchit déjà à un plan d'économie pour assurer leur financement, de quoi faire planer un référendum et donc le risque que toute l'opération s'écroule. Quoi qu'il en soit, Uli Maurer a obtenu que la procédure d'achat ne soit pas interrompue. Comme nous l'a confirmé ce matin le département militaire, les constructeurs ont été chargés d'actualiser leurs offres d'ici la fin du mois. Et changement il y aura parce que ces derniers vont adapter leur prix au taux de change actuel en euros pour l'Eurofighter et le Rafale, en couronne suédoise pour le Gripen. Rappelons que les offres de 2009 tablaient sur un taux de change à plus d'1,5 francs pour 1 euro. Une fois les dossiers réévalués, Uli Maurer transmettra son choix d'ici au début du mois de décembre au Conseil fédéral, qui lui ensuite prendra la décision finale. Pour l'heure, difficile de déterminer quel avion pourrait remporter la mise, mais dans le contexte budgétaire actuel, il semble que le Gripen tienne la corde parce qu'il est le moins cher. Environ 100 millions de francs la pièce, c'est près de 40% meilleur marché que ses deux concurrents.
À Berne, les précisions de Christian Favre. La Suisse est à la traîne en matière de protection des brebis. Et oui, ce ne sont pas les loups, les lynx ou les ours qui en sont responsables, mais c'est bien l'homme. C'est un message présenté ce matin par la protection suisse des animaux. L'organisation estime que les autorités ne font pas suffisamment respecter les lois et qu'en zone de montagne, les troupeaux ne sont pas assez protégés. La Suisse serait donc lanterne rouge en la matière. Les précisions de Romain Cliva.
Pour la protection suisse des animaux, l'Italie, l'Allemagne ou encore la France font nettement mieux en matière de protection des brebis sur les alpages. L'ancienne Miss Suisse Lolita Morena a cité en exemple le parc national des Abruzzes où loups, ours et brebis cohabiteraient en bonne intelligence. Au centre de la cible de la protection suisse des animaux, les représentants des détenteurs d'ovins. Ils sont accusés de faire du loup, de l'ours et du lynx des boucs émissaires bien commodes. Mais pour les défenseurs des animaux, la mort de brebis en montagne est avant tout due au manque de vigilance des autorités. Elles ne feraient pas suffisamment respecter les lois en zone de montagne. Sont notamment en cause le peu de surveillance des troupeaux, l'insuffisance d'eau ou encore le manque de soins aux sabots. Pour remédier à cela, la protection suisse des animaux veut pousser la Confédération à renforcer les contrôles sur les alpages. Et les dédommagements pour les attaques de prédateurs ne pourraient être versés que si les troupeaux ont été suffisamment protégés.
Des cas de mariage forcé et de mutilation génitale féminine, il y en a également en Suisse. C'est afin d'attirer l'attention sur ce point que l'État et l'Université de Fribourg organisent ce soir une conférence publique. Et deux films de la réalisatrice valaisanne Carole Roussopoulos seront également projetés. Vous allez participer à cette conférence, Sama Ousmann. Bonjour à vous.
Bonjour madame.
Vous êtes doctorante en droit européen et droit européen des migrations. C'est à l'Université de Fribourg que vous exercez et ce professorat fait partie du Centre suisse de droit des migrations. Vous êtes originaire du Tchad, on va le préciser. En Suisse, on connaît deux cas de mutilation génitale féminine. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ces cas?
Au fait, jusqu'ici, il y a eu deux cas répertoriés. Le premier cas s'est déroulé à Fribourg, c'est un cas fribourgeois. Donc, c'est une réfugiée somalienne qui a envoyé sa petite sœur dont elle avait la garde en Somalie, puis la petite sœur a été excisée là-bas. Donc, cette affaire a été jugée à Fribourg et elle n'a pas abouti à une condamnation parce que le droit actuel ne permet pas de poursuivre... de punir les mutilations génitales féminines quand celles-ci ont été commises dans un autre pays.
Donc des punitions assez légères, c'est ça que vous dites?
Non, au fait, elles ne sont pas réprimées par le droit suisse quand l'infraction n'a pas été commise en Suisse ou dans les cas où ni l'auteur ni la victime n'est suisse, pour qu'elle soit poursuivie en Suisse et condamnée, il faut que celle-ci soit aussi réprimée dans le pays où elle a été commise. Et dans ce cas-là, les mutilations génitales ont été commises en Somalie et donc elles ne sont pas punissables ici en Suisse.
Est-ce que vous pensez que sur sol suisse, il y a d'autres cas qui seraient par exemple inconnus, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à estimer, des personnes qui ont tout simplement peur de parler ?
Oui, c'est possible.
Vous avez des estimations, vous arrivez un petit peu à voir sur le terrain, à essayer de parler avec des gens autour de vous, dans le cadre de vos recherches, de votre travail par exemple ?
Non, à l'heure actuelle, c'est très difficile d'estimer le nombre de personnes concernées. Mais par exemple, il y a eu une étude de l'UNICEF qui parle de 6700 personnes potentiellement concernées.
En Suisse ?
En Suisse, oui.
C'est un chiffre important, hein, 6700 personnes, effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent cela sous silence. Outre la police, Sama Ousmane, est-ce qu'il faut des instances un petit peu plus spécifiques, peut-être pour recueillir ce genre de témoignages, accueillir ces personnes plus facilement, peut-être, à votre avis ?
Oui, je pense que oui. Dans ces contextes-là, il y a un grand problème. C'est le tabou, la gêne qui accompagne ces cas. Parce qu'il y a quand même... C'est quand même des actes qui sont commis par les proches. Et donc, on est dans le cadre de sociétés qui ont des codes sociaux qu'ils respectent. Et puis, c'est assez difficile pour eux de les violer. Et puis, surtout, les victimes, elles ont envie d'être aidées, d'être protégées, mais elles refusent de mettre en cause leurs proches. Donc, ce qui fait que c'est très difficile d'appréhender ces cas et d'agir contre.
Si on parle aussi de mariage forcé, là on parlait de mutation hein, féminine, en matière de mariage forcé, là est-ce qu'on a d'autres informations en Suisse ?
Oui, à propos des mariages forcés, il y a eu une fondation, la fondation Surgir, qui a donné un mandat de faire une enquête. Et là, elle parle de à peu près 17 000 personnes concernées en Suisse.
Je vous remercie, Sama Ousmane, doctorante en droit européen, droit d'émigration à l'université de Fribourg. Vous donnerez d'ailleurs, vous participez en tout cas à une conférence ce soir du côté de l'université de Fribourg. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Merci à vous, madame.
Une vingtaine des 80 conseillers généraux de la ville de Fribourg sont retournés sur les bancs d'école. Lundi soir, ils ont assisté à une séance d'information sur les règles qui s'appliquent lors d'un conseil général. Des absences injustifiées à l'art de la motion ou du postulat, la palette était large. Au final, pas d'examen, mais Muriel Balamont a tout de même posé des questions. Reportage.
Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour cette séance d'information et de formation.
Sandra Daguet, conseillère générale de la ville de Fribourg.
Vous avez présenté ce cours avec Andrea Burgener, vos frères. Pourquoi avoir choisi de faire ce cours aujourd'hui ?
Quand j'ai commencé le conseil général, j'ai remarqué qu'on débarquait un petit peu dans un lieu inconnu et qu'il nous manquait certaines informations quant aux procédures et au déroulement du conseil général. Et puis surtout, l'expérience dans un législatif communal, c'est souvent la première expérience politique, d'où l'intérêt d'avoir une sorte de petite formation sur les procédures et les règlements du Conseil général.
Peut-être une précision aussi, lorsque les conseillers communaux lisent un rapport, ils sont censés en lire un résumé. Vous pourrez apprécier par vous-même la capacité de nos conseillers communaux de faire un résumé ou pas.
C'est aussi une façon de rencontrer ses collègues.
Alors oui, tout à fait. C'est sûr que quand on rentre dans la salle du conseil général, chacun prend sa place, salue les gens de son parti ou de son bloc, mais va pas forcément plus loin. Et là, c'est l'occasion d'être assis à côté d'un membre d'un autre parti, de voir que l'autre bord existe aussi, et de faire des connaissances.
Oliver Collot, vous êtes le président du conseil général. Vous avez participé à ce cours. Est-ce que vous avez appris quelque chose ?
Alors, après une année de vice-présidence et quelques mois de présidence, je dois dire que je n'ai pas appris beaucoup de choses. Mais c'était une séance importante pour les conseils généraux parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion de se plonger dans le règlement et de comprendre exactement ce qu'il en est.
Est-ce que vous avez un exemple en tête ?
Notamment les distinctions entre les propositions et les postulats. Il y a souvent des objets qui sont déposés, les propositions, et qu'on doit requalifier par la suite de postulats.
Georges Rally, conseiller général.
Monsieur Rally, qu'est-ce que vous avez appris du cours de soir ?
Les différences entre une proposition et un postulat, les finesses du conseiller général, des séances.
Mais en tant que conseiller général, est-ce que vous n'êtes pas déjà censé le savoir ?
C'est avec la pratique qu'on apprend toutes les finesses juridiques d'une telle assemblée. Étant pas un juriste, c'est bien d'avoir ce genre de cours d'introduction.
Voilà, donc on est arrivé au terme de cette séance. Merci à vous pour votre participation.
Un reportage à Fribourg signé Muriel Balamont.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Élection ce dimanche en Tunisie, on le sait, la révolte de la jeunesse tunisienne a été le déclencheur principal qui a balayé l'ancien régime de Ben Ali. À quelques jours de l'élection à l'Assemblée constituante de dimanche, Nicolas Vulti a confronté le regard de deux jeunes femmes. La première est religieuse et militante du parti Ennahda, la seconde est laïque. Reportage.
La référence commune entre moi et entre les Ennahdaïstes, c'est la référence islamique, parce que je crois à l'intégration de la religion dans la politique.
Étudiante et future ingénieure en biologie et en géologie à Tunis, Azar Ferchichi a adhéré au parti islamiste Ennahda l'été dernier. Azar est voilée, ce n'est pas forcément le cas de toutes les femmes qui militent et travaillent pour Ennahda.
Je suis contre l'obligation, parce que si on oblige les filles à porter le voile ou on oblige les gens à prier ou à aller à la mosquée, ça va donner comme résultat l'hypocrisie. Le problème, c'est pas obliger les filles à mettre le voile, mais ne pas obliger les filles à enlever le voile.
Edia Derouich partage ce sentiment. Avant tout, les Tunisiens veulent la liberté. Cette jeune journaliste et doctorante en communication n'a pas encore fait son choix, mais elle ne votera pas pour les religieux.
Nada, ils ont beaucoup d'argent, ils font de la propagande, ils font tout ça, mais les gens, ils ne font pas confiance. Les Tunisiens, jusqu'à maintenant, ils ne savent pas pour qui ils vont voter le 23 octobre.
Les deux jeunes femmes suivent les polémiques qui agitent la rue ces derniers temps. Diffusion du film Persepolis, attaque d'une télé privée par les salafistes, étudiante interdite d'accès à l'université de Sousse, car arrivée complètement voilée sous un niqab, un seul élément les unit, la condamnation de la violence.
Le film, il a exprimé des violations contre les croyances et contre la religion des musulmans. On est pour la liberté d'expression, bien sûr, mais elle a des limites. Personnellement, même si je ne porte pas le niqab, je le défends. Après la révolution, on n'attend pas à l'État de nous poser des interdits.
Je refuse le niqab en Tunisie. Déjà, dans notre religion, on parle du voile, mais pas du niqab. Pour habiller du niqab juste, pour que l'homme ne me regarde pas, c'est comique.
Amoureuse des chansons du crooner irakien Kazem Al-Sahir, Edia Derouich se félicite de la sérénité affichée par les Tunisiens depuis la révolution.
Ce qui est bien dans le Tunisien, tu sens qu'on n'est pas trop stressé, qu'on n'est pas trop pressé.
Quant à Azar Ferchichi, elle fait confiance à Dieu, qui saura conduire son pays sur la voie du progrès et de la sagesse.
Inch'Allah, on va avoir une Tunisie islamique où il y a plus de liberté et surtout, surtout, la dignité.
Un reportage en Tunisie de Nicolas Vultier. Nous avons appelé, nous avons en ligne surtout un blogueur à Strubal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maintenant candidat. Vous venez d'entendre, hein, il y a des polémiques, on stade pour son choix de vote, une incertitude de vote aussi. Est-ce que vous la ressentez dans la population?
Vous voulez dire l'inquiétude ou
Ouais, l'inquiétude, l'incertitude de voter. On hésite encore un petit peu à 3 jours du vote.
Oui, qu'il y ait de l'inquiétude, qu'il y ait de l'hésitation, mais c'est évidemment plus que normal. Je veux dire, les statistiques, non pas concernant la Tunisie, mais tous les pays démocratiques, on le sait, une semaine avant, 3-4 jours avant, il y a une très très forte proportion de gens qui ne savent pas encore pour voter. Et même 24 heures avant, il y a encore souvent près de 15 à 20% d'indécis. Donc c'est quasiment normal. En revanche, ce que je trouve normal, peut-être dans le contexte tunisien, c'est vrai que forcément, il y a eu énormément de listes, et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû, dans les médias, dire oui, s'il y a 111 partis, et alors, je veux dire, c'est normal, ce n'est pas normal qu'on trouve par moment 90 listes, et que des partis se forment, c'est normal. Moi, je ne veux pas que ça soit le ministre de l'Intérieur qui prie, qui aux élections ou pas, mais là, comme ce sont les premières élections démocratiques, je veux dire, bon, ce sont les électeurs qui vont finir par filtrer qui est bon ou qui n'est pas bon. Si vous regardez en Suisse, en France ou en Allemagne, vous avez des centaines de partis.
Astrobal, justement, il y a effectivement des dizaines de partis. Est-ce que vous pensez que les jeunes Tunisiens vont vouloir voter pour contribuer au changement de la société tunisienne, et c'est pour ça qu'il y aura peut-être une forte participation, beaucoup de monde dimanche?
Enfin, moi je pense qu'il va y avoir une participation honorable. On verra le 23, mais je pense qu'elle sera honorable. Cela dit, quand bien même la participation ne serait pas importante, c'est pas grave.
L'idée, c'est qu'on y aille, quoi. C'est qu'on participe, c'est qu'on vote, c'est qu'on s'exprime.
C'est, c'est voilà. Et puis c'est vrai, encore une fois, c'est vrai. Ce nombre de listes qui est important fait que bon, des gens disent mais je il y a trop de partis, je comprends pas. Mais oui. Et alors, je veux dire, on n'a pas besoin de tout connaître. Même le ministre de l'Intérieur, ni tunisien, ni français, ni suisse, n'est capable de citer le nombre de tous les partis qui ont été déclarés auprès des ministères de l'Intérieur respectifs. Donc, pour peu que l'on connaisse un parti auquel on peut faire confiance, une liste à laquelle on peut faire confiance, je veux dire, on n'a même pas besoin. Moi, je vous en parle, je veux dire, même là...
Oh, vous êtes aussi candidat, effectivement, ouais.
Même aux candidats eux-mêmes, ils sont incapables, à Tunis, ils sont... Je fais le pari qu'il n'y a aucun candidat qui est capable de citer le nombre des listes, des 90 listes.
Astrubel, juste pour conclure, moi, je vais vous donner un nom, Neija Anoui, cette jeune femme, ce serait la première candidate tunisienne à avoir voté, c'était hier soir à Canberra, en Australie. On la génial. Voit en vidéo. Elle dit d'ailleurs que c'est une sensation exceptionnelle. Vous attendez à d'autres réactions de ce genre dans les prochains jours?
Oui, je l'espère, oui. Oui. Donc, oui, c'est un événement, faut dire. Hein. C'est un événement. Donc, c'est un événement, c'est émouvant. C'est voilà. Après quasiment 50 ans de dictature, maintenant les gens vont aller aux urnes. Et maintenant, les responsables seront choisis littéralement. Cela dit,
oui, on va suivre ça effectivement dimanche. Hein. De toute façon, on fera effectivement d'autres points à jour. Merci d'avoir réagi à chaud, Astrubel, dans ce journal. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne chance pour dimanche. Merci.
Merci. Au revoir.
Alors que la période des vendanges s'est achevée, une partie des artisans du vin suisse sont réunis dans un guide. Le guide des meilleurs vignerons de Suisse paru aux éditions Favre. Vous y avez apporté votre contribution, votre regard, votre expérience. Jérôme Aquier, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le sommelier de l'auberge de Londres à Saint-Saphorin, d'origine ivoirienne. Vous avez été deux fois meilleur sommelier roman. Dans ce guide, vous êtes aux côtés de Pierre-Emmanuel Busse, Guillaume Perret. Vous avez sélectionné pas mal de vignerons. Est-ce que ça faisait longtemps que vous vouliez faire un livre, un guide ici en l'occurrence?
En fait, ça fait longtemps, non. Pour m'amuser, je dirais, j'ai écrit des chroniques dans le régional, l'hebdomadaire, le régional, et j'avais été approché il y a environ 9 mois en arrière par un éditeur qui voulait que je fasse un guide sur les meilleurs vignerons de la Romandie. Et puis l'idée au départ ne m'attirait pas vraiment, mais puisqu'il insistait, j'ai dit bon ben écoute, pourquoi pas, on va le faire. Et ça me faisait plaisir de parler des meilleurs vignerons de la Romandie. Et puis au fur et à mesure, l'idée en fait a foiré et j'ai été approché par les éditions Favre à travers Pierre-Emmanuel Busse qui aussi souhaitait faire un guide. Et puis ensemble, nous avons mis nos efforts ensemble et nous avons réalisé donc ce guide.
C'est un vrai partage de connaissances. Effectivement, vous le faites avec d'autres connaisseurs. C'est ça qui est intéressant dans ce travail-là.
Oui, parce que ça prend quand même beaucoup de temps hein, pour faire un guide. Et Pierre-Emmanuel, c'est son travail. Il est journaliste, donc il a quand même beaucoup de connaissances au niveau des informations sur le vin. Et puis moi, en tant que sommelier, j'ai l'avantage de goûter aussi beaucoup de vins, aussi de connaître beaucoup de producteurs. Et depuis le temps que je fais ce métier, j'ai eu la chance d'observer tous les vignerons de Suisse en général. Hein. Et donc j'ai quand même une vision un petit peu plus large de ce qu'ils font. Et j'ai aussi eu l'avantage de goûter de différents millésimes, donc j'ai eu une bonne idée en fait.
Et surtout, vous êtes beaucoup allé sur le terrain, vous êtes allé tous les rencontrer. Enfin, c'est un travail de longue haleine, effectivement. Hein.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, je dis toujours que pour apprendre le vin, il suffit pas seulement de lire dans les livres.
Vous dites, il faut écouter le vin.
Il faut l'écouter et il faut écouter le vin parce que parfois les gens parlent avec beaucoup d'émotion, mais sans écouter le vin.
Et comment vous faites-vous pour écouter le vin?
Pour écouter le vin, ça veut dire que je donne un exemple qui est tout banal. Vous avez beaucoup de gens qui ouvrent une bouteille de vin. Ils versent un petit peu dans le verre, ils le portent au nez et puis ils disent ouais, le vin est pas bon. Au lieu de l'écouter, il faut le laisser. Je compare toujours le vin à un papier qu'on froisse. Quand vous froissez un papier, lentement le papier se défroisse et le vin s'ouvre. Donc il faut l'écouter. D'ailleurs, il faut pas le boire, il faut le regarder, il faut l'observer, ensuite le sentir et puis essayer de voir ce qui est dans son ventre. Donc laisser le vin s'exprimer. Avant de l'assassiner.
De l'assassiner carrément. Les mots sont forts et les images sont fortes aussi. Hein. 2003-2005, deux années où vous avez été récompensé deux fois meilleur sommelier roman. Est-ce que ça a une importance quand même, ces distinctions dans votre vie?
En fait, il y a un dicton qui dit « quand je m'observe, ça m'inquiète, et quand je me compare, ça me rassure ». J'étais pas sommelier à la base, j'ai toujours travaillé dans la restauration avec les grands chefs de la région, et puis j'ai été amené par concours de circonstances à participer au concours Ruinard, qui est quand même un concours qui détermine la force et la connaissance des sommeliers qui accomplissent leur travail. J'ai été amené à le faire, et puis j'ai beaucoup étudié, j'ai été coaché aussi. Il y a une grande dame du vin en Suisse qui a participé au coaching des sommeliers, Myriam Brogy. Elle nous a coachés à l'époque, et c'est surtout mon mentor, celui qui a vraiment qui m'a poussé et qui a fait que j'ai la force de faire ce concours. C'était Paolo Basso, qui est aujourd'hui champion d'Europe des meilleurs sommeliers.
Vous étiez bien entouré, quoi.
Ouais, qui était trois fois champion du monde, trois fois vice-champion du monde de la sommellerie. Ce sont des gens qu'on voit évoluer, et on se dit mais comment ils arrivent dans un si petit verre à sortir des mots, à parler, à dire beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et surtout Paolo Basso, dans ce sens-là, m'a beaucoup inspiré.
Vous êtes arrivé en Suisse il y a maintenant 21 ans. Vous êtes devenu grand défenseur aussi des vins suisses. Quelle est la force du vin helvétique selon vous? Vous êtes d'origine ivoirienne, vous savez peut-être en parler de façon plus neutre peut-être?
Oui, tout à fait. Ce que j'ai observé, c'est que quand je suis arrivé dans les années 89, c'est clair qu'on parlait beaucoup de Chasselas, de Pinot Noir, de Gamay. Et puis au fur et à mesure, il y a eu une évolution telle qu'aujourd'hui, j'ai mis parfois au défi beaucoup de clients qui viennent à l'Auberge de Londres, à Saint-Symphorin, hein, qui aiment le vin, parce que dans le vin on se comprend. J'ai mis certains vins suisses à l'aveugle, et parfois ils sont allés dans le Bordelais, ils sont allés au Portugal, en France, partout. C'est dire que les Suisses ont beaucoup évolué dans la vinification.
Vous en jouez quoi quand vous faites des.
Oui, et puis c'est tellement intéressant parce que vous savez, c'est pas parce qu'on devine un vin ou on trouve le cépage qu'on est meilleur, mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse ou c'est la manière de penser, de décrire le vin en essayant de faire un petit peu de logique en disant voilà, c'est par la texture ou par la chaleur, par le nez, je pense que c'est la déduction qui est importante, c'est cette démarche un petit peu comme en mathématiques. Mais c'est pas parce que vous trouvez un cépage, parce qu'on vous a mis au défi, que vous êtes un très très bon dégustateur. La dégustation se fait dans le palais.
Je vous remercie Jérôme Maquet, passionné de vin, on l'a bien compris, sommelier de l'Auberge de Londres à Saint-Symphorin. Vous avez donc collaboré au guide des meilleurs vignerons de Suisse, c'est paru aux éditions Favre. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Un mot encore de la bourse suisse à la mi-journée. L'indice SMI est pratiquement inchangé à 5698 points aujourd'hui. Les prévisions météo sont signées Sébastien Dupéret.
De belles ouvertures apparaissent déjà en plaine et cet après-midi, cette tendance au retour du soleil va s'accentuer. Sur le Jura, les Préalpes et les Alpes, par contre, l'amélioration sera plus lente. L'atmosphère restera fraîche avec une bise bien sensible. Elle atteindra même les 40 km/h par rafale sur le bassin lémanique. Les températures en ce moment, 7 à Mérin, 4 à Avenches, 6 à Boncourt et 2 à Verbier. Cet après-midi, pas plus de 10 degrés en plaine. Demain, le soleil s'installera véritablement. En plaine, toutefois, le stratus occupera le ciel jusque vers la mi-journée, avec un sommet à 1200 mètres. Quelques bancs pourront même passer en vallée centrale. Les températures stagneront toujours aux alentours des 10 degrés. Ce week-end de temps ensoleillé, la grisaille matinale s'abaissera progressivement à 800 mètres. Les températures resteront stables à 10 degrés. Dimanche, on pourra atteindre les 15 en Valais grâce au Fun.
La météo, offerte par Crémo et son fromage à raclette Mazou.
Fin de ce journal, merci à l'ensemble de la rédaction, à l'assistance technique. Demain, dans le journal de 12h30, sur la première, nous recevrons le chanteur de Zebda, Majid Cherfi. Il sera demain notre invité. Le groupe Zebda sera en concert demain soir à l'usine à gaz de Nyon. Demain, unique date en Suisse du groupe, reformé il y a d'ailleurs quelques temps. RSR Info pour écouter ce journal. Et dans quelques secondes, sur Espace 2, forum également, entre 18h et 19h, précisément 13h sur la première. Excellent après-midi, à demain.